Babil, Babel, Babylone.
Babil, Babel, Babylone, c'est tous les dimanches de ce mois d'octobre 2006 à 13h30 sur La Grenouille, une thématique imaginée en collaboration avec le Journal de la Friche, autour des champs croisés du langage, de la construction sociale et des migrations humaines. L'émission d'aujourd'hui, Blablabla, s'intéresse au langage qui dévitalise la langue pour la mettre au service de diverses dominations. On évoquera la LQR, Lingua Quintae Respublicae, sous-titrée La propagande du quotidien, langue publique courante épinglée par l'écrivain et éditeur Éric Hazan. On parlera aussi de la LTI, langue du Troisième Reich, étudiée pendant la Seconde Guerre mondiale par le philologue juif Victor Klemperer, une étude qui a inspiré le travail d'Éric Hazan sur la LQR et le film de Steinemann, La langue ne ment pas. On évoquera un certain langage culturel qui s'expose dans les revues spécialisées, les éditos des saisons théâtrales et les dossiers des administrations de la culture. Et on dira également quelques mots du jargon administratif français, bel outil d'exclusion, c'est-à-dire de domination, qui malgré ou à cause de la mise en place d'un comité d'orientation pour la simplification du langage administratif en juillet 2001, et sa mise au point premièrement du kit du rédacteur administratif diffusé sous forme de mallette dans les administrations, deuxièmement du dictionnaire Le Petit Décodeur, et troisièmement de LARA, logiciel d'aide à la rédaction administrative, semble avoir eu peu d'effet sur le terrain de l'exclusion, comme en témoigne, pour commencer cette émission, Mylène Greffeuil, écrivaine publique, fondatrice de l'association L'Encre Bleue. Mylène Greffeuil, vous êtes la présidente et la fondatrice de l'association L'Encre Bleue. C'est une association d'écrivains publics. Elle existe depuis 1993. Est-ce que vous avez affaire à de nombreuses personnes qui ne comprennent pas la langue administrative ?
Je dirais que c'est pratiquement la totalité des personnes que nous recevons, puisque ce sont des personnes qui sont déjà en difficulté au niveau du langage, souvent au niveau de la compréhension. Disons que ce sont des gens qui savent lire et écrire dans les trois quarts du temps, mais qui butent très rapidement sur un texte simple. Alors vous imaginez sur un document administratif.
Quelle perception vous avez de cette langue administrative?
Qu'elle est totalement incompréhensible. Et bon, c'est vrai qu'on a par exemple beaucoup de gens qui viennent avec des documents juridiques aussi, et à tel point que quelquefois ils ne savent même pas, lorsqu'on leur rend un jugement, s'ils ont gagné ou pas. C'est totalement fermé comme langage.
Est-ce que vous avez ressenti des évolutions dans ce langage administratif depuis la quinzaine d'années que vous avez cette association, que vous travaillez ?
Absolument pas. Non, aucune amélioration. Et je vous dis, j'ai créé l'association parce qu'un jour, je me suis retrouvée devant un guichet postal avec une personne devant moi qui ne savait absolument pas remplir un dossier justement administratif. Et je crois qu'on est exactement dans les mêmes conditions aujourd'hui.
Pourtant, je crois qu'il y a eu une commission de simplification du langage administratif il n'y a pas très longtemps.
Ben, je dirais simplement qu'effectivement, il paraît.
Ça n'a eu aucun effet.
Pas visible en tout cas, non.
Comment se sentent les gens qui ont affaire à cette barrière de la langue administrative ?
Mais disons que c'est une diminution de plus, j'allais dire. Ce sont des gens qui déjà sont en difficulté et ils ont l'impression d'être complètement exclus par ce vocabulaire administratif.
Qu'est-ce qui pourrait se passer pour cette langue, pour que ça devienne, qu'elle devienne moins excluante ?
Mais je pense que si on faisait le même effort qu'au niveau du courrier, par exemple. Le courrier, il y a quelques années, il y avait des références très précises selon qu'on écrivait un préfet, un ministre, un maire, un voisin, etc. Heureusement, aujourd'hui, cette langue-là, déjà, c'est énormément simplifié. Je veux dire, plus vous faites simple, mieux c'est. Si on avait la même tendance dans le domaine administratif, pourquoi utiliser un vocabulaire qui n'est plus du tout utilisé que par des spécialistes? Si déjà on arrivait à simplifier ce vocabulaire, je pense que les choses seraient déjà beaucoup plus simples.
Quels sont les formulaires administratifs les plus excluants, selon vous?
Écoutez, on a les plus excluants, je ne sais pas, mais ceux que l'on rencontre le plus souvent, ce sont les demandes de logement, les demandes d'aide juridictionnelle. Ce sont les deux documents qui me viennent à l'esprit, parce que ce sont ceux qu'on rencontre le plus fréquemment.
Vous pensez que les gens qui se retrouvent en difficulté devant cette langue ont facilement le réflexe de s'adresser à des écrivains publics ou il y en a qui restent comme ça dans leur coin impuissants ?
Alors, je dirais de plus en plus, parce qu'il y a 13 ans, quand nous avons lancé l'association, le problème de l'illettrisme n'intéressait absolument personne. Peut-être en dehors de l'armée, ça n'intéressait strictement personne. Donc, il y avait très peu d'écrivains publics. Or, maintenant, il ne se passe pas un mois sans qu'il y ait un forum sur l'illettrisme. Il y a de plus en plus d'écrivains publics et il suffit de se brancher sur Internet et de taper écrivain public pour voir que c'est quelque chose qui s'est énormément développé. Donc, les gens viennent facilement faire appel à un écrivain public.
Comment vous envisagez la suite de votre activité ?
J'allais dire que si on n'avait plus besoin de nous, ça serait formidable. Mais malheureusement, je ne pense pas que ce soit encore pour demain.
En relisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait deux.
C'est toi que j'aime,
ne prends qu'un aime.
Éric Cazan n'est pas écrivain public, mais il a travaillé dans son ouvrage LQR, La propagande du quotidien, sorti à l'hiver 2006 aux éditions Raison d'agir, à un décryptage, celui de la façon dont la langue publique française est devenue un vecteur de la diffusion de l'idéologie néolibérale.
Je suis l'esclave.
Éric Cazan a été chirurgien jusqu'à l'âge de 40 ans. Il est ensuite devenu écrivain et éditeur. Il est le fils de Fernand Azan, qui a fondé en 1946 les éditions Azan, une maison rachetée en 1998 par Hachette.
Ça, c'est correct.
Éric Cazan a créé et dirige depuis ce rachat les éditions La Fabrique. Il a bien voulu répondre à quelques questions sur son ouvrage « Lingua Quintae Respublicae, la propagande du quotidien ».
Comme ça s'écrit.
C'est en lisant le livre de Klemperer que je me suis dit qu'au fond, nous visions quelque chose qui était assez voisin. Évidemment, il ne s'agit pas de comparer la Ve République et le Troisième Reich. Hein. Il ne faut pas délirer là-dessus. Mais dans la langue publique, il y a des points communs qui m'ont frappé à la lecture, à la relecture, parce que je l'avais déjà lu une fois, à la relecture de Klemperer. Et je me suis dit qu'au fond, ça valait la peine d'essayer de faire, dans des conditions encore une fois radicalement différentes, le même genre de réflexion.
Les conditions sont radicalement différentes, mais quels sont les points communs entre la LTI et la LQR ?
Eh bien, c'est une langue qui est une langue qui n'est pas une langue populaire, qui est une langue publique qui n'a rien à voir avec la langue que les gens parlent entre eux, dans la rue ou ailleurs. Et c'est une langue les points communs, c'est que à la suite de la répétition de tournures, de mots, ils rentrent dans les cervelles de façon mécanique et inconsciente.
Alors ça rentre dans les cervelles, mais on ne la parle pas ?
Oui. Si vous entendez 1000 fois qu'il y a eu un arrêt de travail sur la ligne 12 du métro, ça ne vous empêche pas à vous, avec vos amis, de parler de grève. Mais ce mot d'arrêt de travail de certaines catégories de personnel, ça rentre dans les cervelles de façon inconsciente. Il y a des tas de termes. Par exemple, on ne parle plus de pauvres. Hein. Vous n'entendrez pratiquement jamais un homme politique, un journaliste ou un chroniqueur à radio parler de pauvres.
On parle de gens modestes ?
On parle de gens modestes. On parle jamais d'opprimés, on parle d'exclus, mais ça voudra pas dire. Ça veut dire que c'est une manière que la nouvelle langue publique a de faire en sorte que tous les trucs qui font mal, eh bien, on en parle de façon à ce que ça ne choque pas. C'est une langue anesthésiante. Ça veut pas dire que vous et moi on la reprend quand on discute entre nous. Mais la langue publique est destinée à ce que les choses soient, que l'inacceptable devienne acceptable.
Qui parle cette langue publique alors ?
Les hommes politiques, de tous bords, y compris à ce qui s'appelle, à ce qu'on appelle, je ne sais pas très bien pourquoi, l'extrême gauche, les journalistes, tous, à peu près tous, les publicitaires, les économistes, les statisticiens, les chroniqueurs des différentes chaînes de radio, de France Culture à BFM, ils parlent tous ce langage-là. C'est le langage public. C'est le langage de gens qui ont d'ailleurs en commun d'être à la fois, d'avoir des intérêts communs et d'avoir une formation commune, parce que énormément de ces gens-là sortent des mêmes écoles, qui sont des écoles d'administration et de commerce, hein. C'est-à-dire l'ENA et HEC pour donner les deux plus emblématiques. Donc, sortant des mêmes écoles, ils ont les mêmes intérêts, c'est-à-dire que rien ne bouge, quoi. On peut faire toutes les réformes qu'on veut à condition que rien ne bouge.
Parce qu'ils profitent du fonctionnement de la société telle qu'elle fonctionne aujourd'hui.
Oui.
La LTI était une langue raciste, je crois. Est-ce que la oui. LQR est une langue raciste?
Je ne dirais pas directement. Ce n'est pas une langue qui prône le racisme, mais c'est une langue qui rend le racisme respectable. Par exemple, la prolifération de mots comme arabo-musulman. Arabo-musulman, c'est un terme qui repose sur la grande ignorance des Français qui pensent que tous les Arabes sont musulmans, que les Turcs et les Iraniens sont des Arabes. Ça favorise l'amalgame. L'amalgame des bronzés, de ceux qu'on fouille dans le métro, qu'on garde à vue dans des commissariats épouvantables, qu'on reconduit à la frontière, dont on expulse les enfants. Arabo-musulman, c'est un terme qui, disons, c'est pas un terme raciste. Hein. Quand on dit arabo-musulman, ça ne veut pas dire que les arabo-musulmans en question sont... qu'on puisse leur reprocher quoi que ce soit, mais déjà le terme, c'est un terme qui favorise l'amalgame. Quand on dit islamiste, islamiste est un terme qui est passé complètement, alors là, dans l'alcuaire, c'est un doublet pervers de islamique, qui lui-même est une façon de dire musulman. Islamiste, ça a l'intérêt de rimer avec terroriste, avec fondamentaliste. Donc le glissement musulman, islamique, islamiste, terroriste, c'est un glissement implicite. Le mot islamiste en soi n'est pas un mot raciste, mais il synthétise une démarche raciste.
Alors vous dites que cette langue vise à l'effacement des conflits, à l'anesthésie. Pourtant, on a l'impression que la société française est traversée sans arrêt par les conflits en l'Europe, les émeutes des banlieues, les OGM, le clonage, les retraites, la guerre en Irak.
Oui, c'est pour ça que, d'une façon presque pathétique, les élites... Alors, mot LQR type, hein. Les élites qui nous gouvernent, les élites, c'est extravagant hein, de s'appeler nous les élites, c'est quelque chose sans guillemets et sans ironie, quoi. On parle des élites comme si c'était évident que ce sont les meilleurs qui nous gouvernent. Donc, ces gens qui nous gouvernent, ils utilisent sans cesse des mots qui sont destinés à conjurer cette division. Par exemple, j'explique, je crois, dans le livre que le mot « ensemble », « tous ensemble », prolifère d'une façon absolument extravagante, quoi. Depuis le métro jusqu'au discours de Delanoé, on dit « ensemble » pour conjurer le fait qu'on n'est pas du tout ensemble. On est au contraire complètement clivé, séparé, isolé. Les termes comme « solidarité », « convivialité » fleurissent d'une façon qui va de pair avec l'isolement et la lutte des classes qui traverse ce pays dans tous les sens. Mais... et qu'on se garde bien d'évoquer, parce qu'aujourd'hui, on est censé n'avoir plus ni classe ni lutte.
Mais est-ce que, puisque la société française est traversée par tous ces conflits, est-ce que ces conflits sont le signe que la LQR ne fonctionne pas? Puisque malgré la façon dont elle répète vivre ensemble, solidarité, etc., etc., bon, ça ne fonctionne pas, c'est sans arrêt. Il y a les pour ceci, les contre cela, ça ne s'arrête pas.
Elle fonctionne quand même parce que, regardez quand même la campagne électorale qui s'annonce, la campagne pour la présidentielle qui s'annonce, eh bien, ça intéresse les gens, Donc le fait que ça intéresse les gens, que les gens disent pas de façon massive, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, nous on s'en fout, ça veut dire que la LQR a quand même un effet, qu'elle n'est pas complètement devenue une langue morte, quoi. Ça veut dire que ça fonctionne quand même. Le fait que ça prend les pages des journaux et que les gens en parlent et qu'ils en parlent entre eux, et alors qu'au fond finalement c'est un théâtre d'ombre, c'est une blague cette campagne.
Qu'est-ce que cette LQR façonne de la réalité dans laquelle nous vivons? Est-ce que c'est une langue qui façonne la réalité?
D'une certaine manière, elle n'y parvient pas complètement. Hein. Mais elle est arrivée, par exemple, elle est arrivée à gommer les conséquences du non au référendum. En expliquant que, au fond, on est tous d'accord, et que si certains ont voté non, c'est qu'on leur a mal expliqué, en répétant ça, en répétant que ceux qui ont voté non, ceux qui ont fait basculer la France vers le non, sont des gens qui ne sont pas instruits, qui sont des ruraux, des jeunes, des désargentés, des pauvres ploucs, quoi, au fond. En expliquant que la France a basculé dans le non à cause de pauvres ploucs, on est arrivé à désamorcer le tremblement de terre qu'a été ce non-référendum. Donc, là, la LQR a fait quelque chose de très efficace, je crois. En revanche, elle n'arrive pas à tout gommer. Hein. Son but ultime, enfin, c'est un peu aussi une façon un peu anthropomorphique de dire que la LQR a un but, non. Mais disons que ceux qui la créent et qui la répandent ont comme but ultime de nous convaincre que nous sommes tous dans une grande cité unie. Elle n'y parvient pas complètement, loin de là.
C'est une langue qui fait proliférer certains mots. Il y en a un en particulier qu'on entend depuis plusieurs années, qui est l'éthique. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de cette façon dont l'éthique aujourd'hui envahit tout?
Bien sûr. L'éthique, c'est le mot qui fait chic pour parler de la bonne vieille morale de nos grands-parents, hein. Parce que bon, il y a l'éthique de Spinoza, hein, l'éthique au sens philosophique du terme, et puis il y a l'éthique au sens Luc Ferry du terme, c'est-à-dire faut pas se mettre les doigts dans le nez, quoi. Et il faut dire merci quand on vous donne une sucette. C'est ça, cette éthique-là. Elle a une vertu quand on en fait un mot de la politique. C'est si les choses ne sont pas... Si le libéralisme, si la société actuelle ne parvient pas à créer un monde où tout va très bien, c'est parce qu'il y a un certain nombre de voyous qui transgressent les règles éthiques, et c'est cela qui fait que tout n'est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. C'est en chargeant ces brebis galeuses que le système se dédouane de ses propres manquements.
Quels sont les lieux de résistance à cette LQR et comment on peut résister à ça?
Eh bien, je dirais que il faut en rire. Il faut d'abord la reconnaître. C'est un peu le but du livre. Donner aux gens un outil pour ne pas être dupe de ces mots. Quand ils entendent solidarité, ils doivent tiquer, ils doivent dire solidarité, mais de qui, avec quoi, pourquoi, qu'est-ce que c'est que cette affaire encore? Donc, reconnaître les mots, les décoder et rire. Je crois que la résistance, elle est là. Il ne s'agit pas de créer une autre langue. Hein. Ça serait absolument une très très mauvaise idée. En revanche, je pense que rire de cette langue, la reconnaître et en rire entre nous, c'est déjà extrêmement important.
Dicky. qu'il pense parce qu'il dit, mais qu'il pense que quand c'est dit, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas compris ce qu'il a dit.
Quoi?
Qu'est-ce que t'as dit?
Hypothèse en forme de question. Si une langue façonne la réalité dans laquelle elle s'inscrit, est-ce qu'on peut supposer que le jargon culturel français, qu'il soit lyrique, universitaire ou administratif, a une responsabilité dans la situation de la culture aujourd'hui? Nous sommes allés poser quelques questions sur ce thème à Guy Robert, auteur de théâtre qui a expliqué régulièrement la culture aux malcomprenants dans le journal Ventilo et qui est fondateur et co-directeur du théâtre de la Minoterie.
C'est vrai qu'il y a des expressions qui reviennent souvent dans le langage culturel, mais ça revient dans beaucoup de professions. Et ça peut tourner au jargon, quoi, effectivement. Mais en même temps, en y pensant, quoi, au siècle dernier, qu'on a connu quand même, mais même au début du siècle, il y avait vraiment des langues de profession. Il y avait la langue des bouchers, la langue de chaque corporation, qui devenait une langue à part, qui n'était comprise que de cette corporation. Et alors, est-ce que ça dérive de ça? J'en sais rien, mais un petit peu quand même.
Ça fait longtemps que tu es écrivain, que tu t'occupes de ce théâtre. Bon, je sais pas. Ouais, est-ce que tu as toujours eu affaire à ça? Et est-ce que tu as senti que ça bougeait, que ça...
Ben, moi, j'ai... Bon, déjà, je sais pas si je suis écrivain. Hein, faudrait... J'écris des petits trucs, notamment des pièces de théâtre. Mais bon, je me sens pas vraiment écrivain, quoi. C'est pour... Ben, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé dans ce milieu à être là au début des années... des années bénies, des années 80, des années de Jack Lang, où il y a eu vraiment un fort développement de la culture, alors qui a été vraiment bénéfique pour plein de choses. Mais il y a eu aussi la naissance d'une espèce de caste comme ça, qui a inventé son propre langage. Un peu un langage d'initié, et qui a... Ça s'est un peu aggravé avec... ce que certains appellent les ingénieurs culturels, c'est-à-dire que des gens qui ne venaient pas du tout du milieu artistique, qui ne venaient pas du plateau, qui font des études de sociologie, de philosophie, et puis qui dérivent vers la culture, et ils gardent cette langue, quoi, la langue de sociaux, c'est quelque chose de très particulier, quoi, hein. C'est une langue de spécialiste et qui a été injectée dans la culture. Et effectivement, moi, je suis venu dans la culture à ce moment-là, quoi, au moment un peu de cette invasion de cette langue qui vient de l'université et pas du plateau et pas des auteurs de théâtre. Voilà, donc j'ai toujours vécu avec.
Et depuis ce temps-là, est-ce qu'elle a bougé? Est-ce qu'elle a évolué ou...
Ouais, une inflation douce, disons. Une inflation des termes, bon, que tout le monde connaît, quoi. Les nouveaux territoires de l'art, il faut faire sens, des choses comme ça, le lien social. En même temps, voilà, ça recouvre des choses concrètes, mais on peut se demander s'il n'y avait pas des mots qui existaient ou des expressions qui existaient déjà avant d'en créer tout le temps de nouvelles.
Est-ce que pour toi, c'est une langue excluante, ça?
Ben, toute langue, évidemment, que toute langue particulière est excluante, c'est sûr. Comme toute langue d'un milieu socio-professionnel est excluante de l'extérieur. Je veux dire, si on ne s'y intéresse pas, on n'arrive pas à raccrocher. Mais moi-même, il y a des tas de trucs que je n'arrive pas à lire. Hein. Je suis dedans, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à lire certains des articles. Pas dans la presse quotidienne et tout ça, ça va, quoi, les critiques. Mais il y a des revues spécialisées, mais pour moi, je ne comprends rien, quoi. Moi-même, je m'en sens exclu. Voilà.
Les gens qui parlent beaucoup la langue culturelle, est-ce que ce ne sont pas les institutions?
Dans ma pratique...
L'administration, quoi, culturelle.
Ouais. Non, je la sens plus dans les gens qui sont en poste, pas dans l'administration, c'est-à-dire pas dans les institutions territoriales, villes, etc., régions, mais plus dans les gens qui sont en poste des lieux culturels. Voilà. Qui sont à la tête de certains établissements culturels dans tout le pays. Là, il y a un genre de confrérie des directeurs, des directeurs de certains établissements qu'on voit tourner de l'un à l'autre. On voit des programmations qui qui se ressemblent dans l'est de la France et en Bretagne, et puis vers Toulouse ou des trucs comme ça, des genres de programmation interchangeables, parce que ces gens, c'est vrai, ne cherchent pas une originalité, mais cherchent à amortir des coûts de production et des coûts de tournée. Et donc on retrouve un peu les mêmes spectacles quand on se déplace en France, voilà, dans ce genre d'établissement. Et cette langue-là, moi, je la sens plus chez ces gens-là, en tout cas dans notre région, que chez les gens qui sont chargés des affaires culturelles dans les différentes institutions.
C'est quand même la langue qu'on retrouve dans pas mal de dossiers, de demandes de subventions, de choses comme ça, non ?
Oui, parce qu'inconsciemment, on s'y conforme. Je pense que certains se disent, bon, il faut que je mette les mots à la mode pour que mon dossier soit examiné avec bienveillance. J'imagine que c'est ça. Mais on peut dire les choses plus simplement sans employer ces expressions.
Et ça passe quand même.
Je pense que ça peut passer, oui. Oui. Non, alors c'est pas une forme d'autocensure, c'est une forme d'autosuggestion, je sais pas, mais de mettre. On croit bien faire en mettant les nouveaux territoires. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est plutôt ça.
Babil, Babel, Babylone.
Jargon culturel, quelques travaux pratiques avec Jean-François Néplaz, cinéaste responsable du Polygone étoilé.
Mais donc l'Europe préconise des campus virtuels européens, c'est-à-dire le développement des instruments existants, en particulier de ceux qui concernent la mobilité virtuelle en tant que complément et renforcement de la mobilité physique, les systèmes de reconnaissance et de validation s'appuyant sur ECTS, les services d'information et d'orientation et toute autre synergie entre les modèles virtuels et traditionnels. Ces projets doivent se fonder sur les accords institutionnels élargissant ou complétant, dans la mesure du possible, les accords de coopération conclus dans le cadre des programmes communautaires favorisant la mobilité.
Donc là, tu prends le chapitre qui te concerne, où tu estimes que tu peux être utile, puisque c'est toujours des questions d'utilité. C'est très bolchevique comme conception, ce qui est appliqué par les institutions maintenant. Ils ont cassé du sucre sur les bolcheviques, ils les ont réduits en cendres, en poussière, alors qu'ils appliquent la même conception utilitariste de l'art, de la culture. À quoi c'est utile, à quoi ça sert? Donc c'est la prévention, c'est la lutte contre les violences, c'est la lutte contre l'errance, c'est la mise en place de pôles d'animation dans des territoires non couverts, l'accompagnement des publics marginalisés en grande difficulté, la prévention des violences intrafamiliales, tout ça. Donc toi, si tu choisis ta catégorie... si tu luttes pour la maîtrise des langues, tu vois, la maîtrise des langues, quand tu lis leur texte, tu vois, c'est effrayant ce qu'ils appellent la langue. Opération d'urbanisme, non, on n'est pas vraiment là-dedans, mais des fois, la gestion urbaine de proximité. Alors là, on cherche les chapitres, et puis là, on prend en copier-coller une phrase pour dire que c'est ce qu'on fait. Voilà, tu vois, là, nous, on avait coché cette phrase. On t'explique que le patrimoine pluriel, c'est-à-dire historique, archéologique ou traditionnel, occupe une place importante dans notre société. En fait, ce patrimoine pluriel est aujourd'hui à la fois constitué d'héritages transmis par... Bon, on t'explique le monde, donc tu termines ton projet en disant oui, tu as compris le monde et que tu vas apporter une solution au monde. Donc tu vois, on a souligné tout ce qu'on va copier-coller en quelque sorte. Contenu culturel en lien avec les habitants par la création artistique. L'information et la mise en réseau des acteurs culturels, ce que je t'ai lu dans notre dossier tout à l'heure, ça c'est leur cahier des charges. Donc tu vois ce qui leur plaît et puis tu leur resserres quoi. Tu vois, là on a mis deux fois entre parenthèses, Voilà, c'est important. Les équipements de proximité, vecteurs de citoyenneté, sont le lieu privilégié pour la construction d'actions sociales et collectives visant la participation des usagers et favorisant l'autonomie des publics les plus précaires dans un cadre cohérent et à l'échelle humaine. Alors, quand tu lis ça, tu dis, bon, il y a des choses qui les inquiètent et à la limite, c'est des choses auxquelles... C'est bien qu'ils soient inquiets de ça parce que c'est vraiment la zone. Après, ce qu'ils vont mettre en œuvre... pour quoi, résoudre ce qu'ils appellent des problèmes qui, pour moi, n'en sont pas. Pour moi, c'est eux les problèmes. Eux sont des problèmes. Mais la vie, ce n'est pas un problème. La vie de mon quartier, ce n'est pas un problème. C'est ma réalité. Eux sont des problèmes. Parce qu'il faut arriver à leur faire entendre. Tu vois, par exemple, les mêmes qui écrivent ça. Hein, ils nous ont fait baisser les subventions de 100 000 francs parce qu'on voulait faire cette salle ouverte au public. Et maintenant, ils nous la subventionnent pour qu'elle soit ouverte au public, 5 ans après. Mon problème, c'était eux, c'était pas le quartier, c'était pas les gens en situation précaire, c'était pas les voyous qui entourent etc. Ceux-là, ils sont là, ils étaient là avant moi, ils y seront après, et c'est pas un problème. À la limite, je suis un problème pour eux, et je suis content d'être un encombrement avec le polygone. Ça les force à réagir, à penser, à, voilà, et on est dans un dialogue comme ça. Mais ce n'est pas un problème, comme on dit, un problème de mathématiques. Tu vois, comment tu vas enseigner les mathématiques si tu commences par considérer que c'est un des problèmes? Non, c'est un jeu. Et ça, c'est du jeu social qu'on fait. Et ça, c'est excitant. Mais le dialogue avec les politiques pour arriver à faire comprendre le jeu social, ça, c'est un problème. Et tu as du mal à leur expliquer, évidemment, que les problèmes de langue, c'est eux qui en ont. Les problèmes de communication, c'est eux qui en ont. La fracture numérique, c'est eux qui l'ont. C'est pas là. Là, c'est la vie. Et le problème, c'est eux. Tu vois ? Voilà. Et bon, après, tu as une politique c'est aussi mise en œuvre par des hommes qui peuvent avoir une sensibilité plus ou moins grande et avec toi, avec eux, une affinité plus ou moins grande. Tu arrives à faire un peu à défendre une politique avec des gens qui sont des adversaires, mais parce que tu as des. Voilà, tu arrives à rencontrer quelqu'un et, qui peut ne pas être en accord avec toi, mais qui te laissera quand même. Qui te fera confiance, quoi. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Hein, c'est en dehors des institutions. Les institutions sont servies par des hommes. Et dans toutes les institutions, nous, on a trouvé des complices. Des gens avec qui on s'entend, même s'ils ne sont pas. Voilà, même s'ils discutent, même s'ils ne sont pas d'accord à 100%, il y a toujours eu des gens qui nous ont... sinon, tu ne peux pas faire, en plus, je vais dire que tu mènes un projet un peu conséquent, tu es obligé d'avoir toutes les institutions, et qui, elles, se bouffent le nez entre elles. Donc, il faut bien que tu trouves des... à parler en dessous des apparences, quoi, en dessous des mots qui servent à fermer les portes. La puissance, tout le monde croit que la puissance, c'est de dire non. La possibilité de dire non, c'est une puissance, alors que c'est la possibilité de dire oui qui est une vraie force, quoi. Alors, il y a dans toutes les institutions des gens qui le savent. Donc, tout ce qui consiste à fermer les portes, ce n'est pas un signe de puissance, c'est un signe de faiblesse, d'inquiétude, de désarroi, d'ignorance. Voilà. Donc, les mots très compliqués comme ça, c'est un signe d'ignorance crasse, quoi. Et de peur, voilà. C'est tout.
C'était Jean-François Néplaz, cinéaste et directeur du Polygone Étoilé, un lieu qui accueillait en mars dernier l'association Peuple et Culture pour la projection du film de Stan Neumann, La langue ne ment pas, dont le sujet était la LTI, la langue nazie étudiée par Victor Klemperer. Cathy Vivotseff et Pierre Guéry, qui est également poète, développent à Marseille avec Peuple et Culture un travail autour de l'image et de l'écrit. Ils ont répondu à quelques questions sur La langue ne ment pas.
Nous avons projeté ce film l'année dernière, en mars dernier, dans le cadre en fait, d'un cycle de programmation de films documentaires autour du thème des identités. Et déjà, on était assez intéressés par les questions de langue, parce qu'il nous semblait que la langue, c'est un marqueur identitaire important qui peut à la fois stigmatiser, exclure, mais aussi à l'inverse intégrer. et le film de Stan Neumann, La langue de ne ment pas, étaient un peu ces deux choses-là. À la fois un exemple dans l'histoire, dans un contexte particulier, puisque c'était celui de la Shoah en Allemagne, mais d'une analyse en fait, de la langue nazie. Hein, la LTI, c'est cette tentative-là qu'a faite Viktor Klemperer. Donc une illustration de la manière dont la langue peut faire penser à la place d'eux. Et en même temps, ce film est aussi un acte de résistance et de liberté, puisque Klemperer, en tenant ce journal, s'est sauvé, quoi. Enfin, a sauvé sa peau, son âme, a pu résister en fait à cette période où il a été persécuté jusqu'au bout.
Quelles étaient les caractéristiques de cette langue nazie ?
Il y avait une référence à la nature, à tout ce qui était... Oui. Le
langage de la nature, le langage de la morale, le langage de la fonction, qui est justement certainement un des... le langage de la nature et le langage de la morale, on le trouve dans les langues politiques depuis assez longtemps. Le langage de la fonction, qui est le discours technocratique inattaquable, qui est le discours qui gère l'humain, dans toute sa dimension fonctionnelle, avec tous ces termes économiques, mécaniques, qui prétendument enferment les choix politiques et les réalités sociales ou culturelles, dans une vision technicienne du monde qui est intouchable. Et ça, ce langage technocratique, de manière très logique, il a proliféré. Et son pouvoir n'a cessé d'augmenter justement avec la progression technologique de tous les médias.
Quand tu parles de langage de la nature, c'est pas le discours écolo ?
Non, c'est présenter les langages de la nature, c'est présenter les choses comme naturelles, faire de la dissimulation politique en quelque sorte. Par exemple, c'est dire X ou Y est le candidat naturel à la présidentielle. Qu'est-ce que ça veut dire, un candidat naturel? Toutes les métaphores du style tempête monétaire, maladie du chômage, fracture sociale, toutes ces métaphores sont empruntées au langage de la nature. La tempête monétaire, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le climat, hein, ma bonne dame, vous comprenez. Voilà. Donc on présente le monde tout le monde dans ce langage-là. Voilà.
C'est le langage de l'impuissance politique. En fait.
C'est le langage de l'impuissance politique, oui.
Est-ce que la LTI a disparu avec les nazis ?
Oh ben non. Enfin, dans la langue allemande, tu veux dire ? Oui, en partie. Il y a quand même un travail de purge qui a un peu été fait. Heureusement, la langue allemande a dans son histoire d'immenses écrivains et d'immenses philosophes qui ont porté aussi le pouvoir poétique et expressif de la langue allemande à son plus haut point, comme Hölderlin, Goethe, enfin, etc., pour parler que des plus connus. Mais donc en revenant à ces textes littéraires et poétiques essentiels, on a pu revenir à une langue plus vraie.
Dans le prolongement de leur intérêt pour le travail filmique de Stan Neumann sur la LTI, Cathy Vivotsev et Pierre Guéry sont allés rencontrer le réalisateur, connu pour ses documentaires sur l'architecture, notamment La Maison de Verre, chez lui à Paris. Extrait de l'entretien qu'ils ont réalisé à cette occasion.
À un moment donné, on s'est posé la question, est-ce que ce n'est pas une période et des actes tellement incomparables, hein, la période nazie, est-ce que face à ces actes-là, on peut oser faire des parallèles avec notre monde d'aujourd'hui ? Autrement dit, si la pensée de Klemperer, elle a une très forte... actualité, enfin, elle a un caractère universel, on pourrait dire. Mais qu'est-ce qu'elle peut nous dire face à notre monde d'aujourd'hui et à ses problématiques ?
Alors, je vais vous répondre un peu compliqué, hein, mais c'est pas grave. La question, c'est pas de comparer. évidemment, hein, parce que si vous voulez, chaque situation est spécifique. Et non comparable en tant que situation historique, situation réelle, etc. Ça, c'est simplement parce qu'il m'est arrivé une ou deux fois dans des débats autour du film d'avoir quelqu'un qui me disait oui, mais pourquoi vous parlez pas de la Palestine. Ça m'est arrivé à une projection. Je suis absolument d'accord, il faut faire des films sur la Palestine, allez-y, faites-le, moi j'ai choisi de faire celui-là, et puis chacun fait les objets qu'il décide de faire, ils ne sont pas exclusifs, mais la comparaison, au fond, mène à des dérives très dangereuses. Ça, c'est un truc. Alors maintenant, en dehors de toute logique de comparaison, Klemperer, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un premier truc qu'on ne fait pas assez souvent aujourd'hui, c'est-à-dire il prend la langue au mot. C'est-à-dire il dit, tiens, ces gens-là, en l'occurrence les nazis, ils disent des trucs... Tout le monde dit, ils le disent mais ils ne le pensent pas, et moi je vais me dire, ils le disent et ils le pensent, et en écoutant ce qu'ils disent, je vais comprendre comment ils pensent. D'accord ? Donc voilà une opération élémentaire qu'on peut pratiquer aujourd'hui de façon très saine, hein. C'est-à-dire au lieu de se dire, ce mec en disant ça, il ment, peut-être qu'il ment aussi, mais ce mec en disant ça, il ment, c'est pas la peine de l'écouter, on l'écoute et on comprend en réalité, parce que tout est dit, évidemment, la langue dit toujours la vérité, hein, ça, c'est la grande idée de Klemperer, on comprend subitement de quoi il s'agit, tout simplement parce qu'on s'est donné la peine d'écouter. Donc ça, je pense que c'est une opération immédiate, prendre la langue au mot, c'est dire, c'est ça. Et c'est ça que ça veut dire. Et un deuxième truc qui est très très beau chez lui et qui, alors, par rapport à aujourd'hui, est tellement, tellement énorme. Quand il dit la langue ne ment pas, il ne dit pas seulement que la langue va tout le temps, au fond, révéler dans une espèce d'inconscient de ce qui est caché, de ce qui est pensé derrière, ce qui est déjà un premier truc, mais il dit aussi que la langue est vraie. Et il dit à un autre endroit, je crois qu'il met ça en exergue de son journal, il dit « la langue est plus vraie que le sang ». Et ça, moi j'ai toujours trouvé que c'était une phrase absolument formidable, qui n'est pas de lui, hein, qu'il a emprunté à Rosenbaum, mais c'est une phrase absolument formidable et absolument juste par rapport à aujourd'hui. Ce que ça veut dire, c'est « je suis la langue que je parle, je ne suis pas la biologie, l'ethnicité, le clan qui circule dans mes veines. » Et ça, enfin, pour moi, c'est essentiel dans sa pensée, et c'est un truc absolument essentiel pour aujourd'hui. C'est ça, en dehors de plein d'autres trucs sur tout ce qu'il dénonce, comme ça, ponctuellement, mais cette idée que ce rejet du biologisme, au fond, et pas seulement du biologisme, mais aussi de tout ce qui va avec, hein, de l'irrationalisme, du communautarisme, au fond. Moi, je trouve ça, pour aujourd'hui, plus qu'important. Et ça a sans doute été une des raisons qui m'a poussé à faire le film. Parce que, si vous voulez... C'est des films pénibles, c'est des films lourds, difficiles, dont on peut se demander au début aussi si c'est utile. Hein. Moi, je me suis posé la question de savoir est-ce que ça vaut le coup de refaire encore une fois ce chemin de l'extermination, etc. Est-ce que ça n'a pas déjà été fait de façon tellement forte que ce n'est pas la peine de revenir sur ça. Et ce qui m'a décidé à le faire, c'est parce que j'ai eu vraiment le sentiment que parce qu'il travaillait sur la langue, hein, et parce qu'il travaillait justement pas sur ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire il ne travaille pas sur l'innommable, il travaille sur le nommable, il travaille pas sur l'inimaginable, il travaille sur des trucs qui sont tellement bêtes que... son chat, hein, c'est ça qu'il raconte. Ça, on peut très bien imaginer. Donc, je pense que si j'avais pas eu cette conviction que ça pouvait être un film, que ça devait être un film pour aujourd'hui, que ça avait un sens de dire ces choses-là aujourd'hui, je ne l'aurais jamais fait. À ce moment-là, ça va, quoi. Ça, c'est un peu facile, si vous voulez, je pense. C'est un peu facile juste de régler ses comptes, une fois de plus, avec les nazis. Si c'est pas pour dire des trucs sur le monde dans lequel on vit, c'est pas la peine.
Babil, Babel, Babylone.
Pour accompagner la projection du film de Neumann, La langue ne ment pas, à partir de la LTI de Victor Klemperer, tu as écrit un texte qui s'appelle « Dé- et repolitisation par le langage ».
Oui, c'est un article qui essaye de synthétiser un petit peu un certain décryptage de tout ce qui fait mystification dans la langue, et de tout ce qui fait mystification à la fois du côté des politique et du côté des périphéries politiques, et notamment du langage des médias et du langage de la marchandisation. De la publicité. Tous ces langages ne sont pas les mêmes, mais entretiennent des rapports cordiaux et d'échanges certains. Il y a un certain nombre de choses communes, des rapports de défense d'une chose commune qui est l'intérêt et le profit, pour dire très vite. C'est essayer de voir plus concrètement qu'est-ce qu'on met derrière les termes devenus très entendus aujourd'hui de langue de bois ou de langue de coton, pour reprendre le titre d'un livre qui date une quinzaine d'années de Huyg, qui s'appelait La langue de coton, et qui se proposait justement de décrypter plus précisément la langue de bois des médias. Et c'est le nom que Huyg avait donné à cette langue de bois des médias, c'était la langue de coton.
Cette question de la langue a intéressé de nombreux auteurs. On a parlé de Victor Klemperer, mais il y en a beaucoup d'autres. Et notamment, sur la question des médias, il y a quelqu'un qui s'appelle Armand Robin, qui a écrit un livre qui est important pour toi, Pierre.
Pour moi, c'est un livre majeur, c'est-à-dire que ça fait partie des textes fondateurs des analyses sur les langues de propagande. Donc le livre s'appelle La fausse parole. C'est publié aux éditions Le Temps qu'il fait, et ça a été initialement publié par les éditions de Minuit en 1953. Donc c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, et ça reste, malgré la réédition, un livre très très peu connu. Et pourtant extraordinaire, la personnalité d'Armand Robin étant elle-même extraordinaire. Armand Robin était un breton d'origine paysanne, dont le breton a été la langue maternelle, la première langue parlée. Donc le français a été pour lui la langue de l'école. Et très vite, Armand Robin s'est passionné pour les langues qu'il a étudiées. Très tôt aussi, il s'est mis à écrire, il est de la poésie, notamment en breton. Et puisqu'il défendait aussi, il défendait les dialectes, ça aussi c'est quelque chose dont on peut parler, la place des parlers dialectaux au sein d'une langue, hein, enfin au sein d'un État qui a une langue officielle. La France a fait quand même des sorts assez durs. Ces langues-là. Mais voilà, donc Robin étudie les langues jusqu'à en parler, en pratiquer très couramment 17, dont le russe, dont le chinois, le hongrois, des langues aussi difficiles. Et il est devenu professionnellement un écouteur de radio. Et il a publié donc toute une série de bulletins qui s'appellent Outre-écoute. Il faisait donc des bulletins, des notes qui qui lui était commandé par des gens extrêmement divers. Parmi ses commanditaires, il y avait des ambassades, des consulats, des ministères des Affaires étrangères, bien sûr, mais pas seulement. Il y avait aussi des privés. Il y avait le comte de Paris, par exemple, qui lui commandait des bulletins. Donc le boulot de Robin, c'était toutes les nuits d'écouter toutes les radios du monde, enfin toutes, c'est exagéré, mais de très nombreuses radios du monde, et de rendre compte de ce qui se disait sur la politique internationale et sur des tas de sujets, de ce qui se disait sur les radios étrangères et qui pouvait intéresser la France et certains Français. Et il a notamment beaucoup écouté les radios staliniennes et il a décrypté plus précisément la langue de propagande stalinienne. Et il en rend compte de manière assez, assez extraordinaire dans ce livre La fausse parole.
Tu peux nous lire un extrait ?
On assiste dans le cas de ces radios à une annulation des maîtres les plus superbes par leurs paroles. Le dictateur est chassé de son langage. Il se dilue, lui aussi, lui avant tous les autres, en l'entité verbale qui lui a tout pris et qui ne lui rend rien. La parole stalinienne n'a plus besoin de Staline, le bafoue. Elle a pris du Staline, ne rend rien à cette chose. Séparé de la vie par des propagandes suscitées pour dominer la vie, le dictateur totalitaire est en outre séparé de ce langage de séparation. Il est l'aliéné suprême. Si le dictateur possédait, selon son rêve, l'univers entier inconditionnellement, il établirait un gigantesque bavardage permanent où, en réalité, nul n'entendrait plus qu'un effrayant silence. Sur la planète régnerait un langage annihilé en toute langue. Et cet envoûteur suprême, isolé parfaitement dans l'atonie, loquacement aphasique, tumultueusement assourdi, serait le premier à être annulé par les paroles nées de lui et devenues puissance hors lui. Il tournerait indéfiniment en rond, avec toujours sur les lèvres et dans les oreilles les mêmes mots obsessionnels, dans un camp de concentration verbale. Le processus qui mène au langage obsessionnel, c'est-à-dire en fin de compte à la suppression du sens des mots, a quelque chose de fascinant, d'ensorcelant. Il y a comme la promesse d'une nouvelle façon d'être, laquelle, tel le vide, attire et fait chuter. Si affreux que cela puisse paraître, nous irions jusqu'à dire qu'à des millions et des millions d'hommes, cette biblique extermination du langage peut apparaître comme un repos inespéré, comme la terre promise. Le silence totalitaire, parfaitement réalisé sous forme de fausses paroles imposées à toutes les lèvres, a ses chances de réussir à hypnotiser une humanité harassée. Un tel silence est promesse, non plus de mort au sens que les religions ont donné à ce mot, mais d'une mort encore innommée où chaque homme serait muet en objet glacé. Dans les eaux de la parole totalitaire, l'humanité voguerait à l'aise en goûtant au plaisir des poissons silencieux. Bien plus, ces pseudo-humains auraient besoin à chaque instant de ces géantes vagues de paroles insensibilisantes et ne pourraient plus supporter d'en être retirés, encore moins d'être mis dans le cas d'avoir eux-mêmes à parler.
Babil, Babel, Babylone.
C'était Blablabla, une émission spéciale réalisée dans le cadre de Babil, Babel, Babylone, une thématique sur la grenouille imaginée en collaboration avec le journal de la Friche. La semaine prochaine, même heure, mêmes ondes, même thématique, ce sera une émission sur la langue de ma cité. Mm-hmm.